parce que oui, on reçoit l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, un invité exceptionnel. Il est là déjà. Donc, salut Christophe.
Salut Jérôme.
Merci
salut
d'être Louis. Là. Merci.
Avec plaisir.
Voilà, merci. On va passer un bon moment.
C'était une promesse qui a été faite.
Exactement. Bah, c'est bien de la tenir.
Évidemment, le 32-16 est là. Si vous voulez, supporter du PSG, posez une question directement à Christophe Galtier. Il est l'invité exceptionnel de Rotten sans flamme.
Bon, Christophe, déjà, on va faire un premier bilan. D'habitude, on le fait à mi-saison, mais là, on est obligé par la force des choses, cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu fais comme bilan de tes 15 premiers matchs en championnat? Et puis, il y a eu les 6 matchs de Ligue des Champions.
Plus le trophée des champions.
C'est vrai, plus 1.
C'est quand même bien de démarrer par une victoire quand on arrive au club.
Ouais, et puis une belle victoire en plus.
Oui, c'était une belle victoire. Tout simplement que, je le répète encore une fois, j'ai un groupe de grande qualité et avec qui je prends plaisir, mais vraiment un grand plaisir tous les jours de travailler ensemble, d'échanger, de partager. Évidemment, il y a une grande attente autour du club, autour de l'équipe. Mais j'ai depuis le début de la saison des joueurs qui sont présents au quotidien, qui se sont très bien préparés en amont et qui ont une grande envie de réaliser quelque chose ensemble. Et ça, c'est très important. Et ça a été, chez moi, un des axes de travail les plus importants, de faire en sorte de créer un vrai état d'esprit, un esprit d'équipe avec les caractéristiques des uns et des autres. Sur ces 15 premières journées, bon, voilà, on a des stats très intéressantes. On est devant, on est invaincu, on a été accroché belle manière par Monaco. Après, on a fait match nul à 10 contre 11 à Reims. Mais quand même, il y a eu des choses intéressantes. Il a fallu travailler sur un système dès le départ. Mmh. Et, ça, c'était très clair dans ma tête dès que Louis et le président Nasser m'ont sollicité pour prendre le poste. Il fallait trouver un schéma sûrement différent de ce qu'il y avait la saison dernière pour trouver un juste équilibre, pour mettre aussi les joueurs et l'effectif que j'avais à ma disposition sur chaque joueur sur leur point fort. Et au fur et à mesure des enchaînements de matchs...
Tu l'as fait évoluer.
Je l'ai fait évoluer pour deux raisons. La première, c'est que nous avons recruté 3 milieux de terrain qui sont arrivés très tard dans la préparation avec des degrés de forme totalement différents. Et évidemment, avec l'arrivée des 3 que je nomme, sont Renato Sanchez, Carlos Soler ou Fabien Ruiz, je savais qu'il y allait avoir, et on avait toujours cette réflexion aussi, d'avoir cette possibilité de ne pas rester en permanence à 5 derrière, voire à 3 défenseurs centraux. Je me suis aperçu au fur et à mesure des matchs et l'enchaînement des matchs, mais aussi les adversaires qui travaillaient, et notamment avec la Champions League, que ce système, évidemment, avait évidemment des points forts, mais avait
ses limites aussi.
Avait ses limites, notamment pour les deux milieux.
C'est pas fini ce système quand même.
Il est
parce que certains te disent, quand ils analysent le PSG, et on peut pas gagner la Ligue des Champions dans ce système-là, et donc ça sera mieux en 4-3-3. Est-ce que pour toi, c'est aussi un axe de réflexion, où tu te dis, oui, on peut repasser à 3, on joue à 4, on peut aussi repasser à 3, et tu l'as fait dernièrement en plus?
Oui, alors évidemment, il y a ce qui se passe en championnat, mais il y a aussi, surtout, évidemment, ce qui va se passer en Champions League. Et on connaît l'importance de la bataille du milieu, l'importance de ne pas se retrouver soit bloc haut, soit bloc bas. Et ce système-là, le système avec deux milieux de terrain et nos 3 offensifs, évidemment, vous laisse soit en bloc haut, soit en bloc bas.
Il n'y a pas de juste milieu.
Il n'y a pas de juste milieu. Et pour avoir un juste milieu, il faut rajouter
un milieu.
Il faut rajouter un milieu. Et je crois qu'il sera important dans l'évolution, et c'est ce que j'ai voulu faire à la fois d'une manière radicale après notre match contre Benfica, qui a été un des moins bons matchs, un match moyen de notre part.
Justement, Christophe, allons-y sur Benfica, puisque Jérôme, ça fait partie du bilan de la première partie de saison. Ouais. Toi, tu as eu pas mal de critiques quand même sur les prestations du PSG sur ces deux matchs.
Bah, en fait, moi, j'ai été critique sur ce que tu viens de dire, sur le déséquilibre permanent que t'amènes en effet quand tu es un de moins au milieu de terrain, et tu l'as constaté, hein, comme nous, de toute façon. Et surtout le fait que Après, que tu aies un bloc plus bas, plus haut, bon, pour moi, peu importe, mais tu concèdes quand même beaucoup, beaucoup d'occasions. Et que sur les gros matchs, c'est, la limite du PSG a été que ce constat-là a été permanent. Et que, est-ce que toi, tu as trouvé une amélioration, que ça soit à 3 derrière ou en repassant à 4, sur les gros matchs, hein, je te parle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser la victoire contre Ajaccio, contre Reims et ceci, mais c'est très clair, le niveau d'intensité est bien supérieur quand tu joues Benfica, quand tu joues Monaco, quand tu joues Marseille. Et c'est vrai que j'ai senti que vous aviez quand même des problèmes à ce niveau-là.
Oui, mais autant on pouvait créer de grosses situations, autant on pouvait en subir. Et quand vous êtes en bloc bas, la moindre faute donne un coup franc, un corner. Il y a l'intervention de Marco contre Benfica qui se joue à la limite de la surface, qui finalement donne un pénalty, mais ce n'est pas la faute à Marco, c'est le système qui nous a mis en bloc bas. Il y a une réflexion, mais que je menais depuis un certain moment. J'attendais aussi le retour en forme sur un plan athlétique des milieux de terrain qui composaient mon effectif. Et je savais qu'à un certain moment, on allait changer de système. Et j'ai pris la décision de changer de système avant Marseille. Pour plusieurs points. Pour avoir plus de densité à l'intérieur du jeu. Pour pouvoir récupérer le ballon plus haut. Donc d'être moins bas. Et aussi pour à ce moment-là, à partir du moment où je commençais à avoir des jambes et des repères au milieu de terrain, pour que nos trois fantastiques puissent se retrouver chacun dans leur zone préférentielle, puissent s'exprimer de la meilleure des façons.
C'est-à-dire Kylian Mbappé un peu plus à gauche.
Exactement. Kylian un peu plus à gauche, né dans le cœur du jeu, et Léo, qui d'une position haute, vient dans sa zone préférentielle. Et quand il vient dans sa zone préférentielle, un de mes trois milieux va prendre l'espace qu'il libère. Et ça a été très bien fait contre Marseille, avec deux séances sur lesquelles nous avons travaillé. Évidemment qu'après, le fait de savoir si vous avez soit Marco Verratti en sentinelle, soit, comme c'était le dernier match, Danilo, ça vous donne, si vous avez Marco, vous avez un milieu à 3, à 4 en losange avec Ney, qui travaille beaucoup aussi dans la récupération du ballon. Mais quand vous avez soit Marco dans ce losange-là ou dans ce triangle et Danilo en sentinelle, ça vous donne deux possibilités pendant le match ou pendant des temps de jeu ou sur des situations d'avoir trois centraux et deux pistons très agressifs ou en bloc médian de se retrouver dans un 4-3-3.
Christophe, tu as parlé des trois fantastiques devant. On est tous d'accord pour dire qu'individuellement parlant, c'est difficile de faire mieux. Mais après, il faut les faire jouer ensemble. Il faut surtout les gérer. Est-ce que ce n'est pas difficile pour toi de les sortir, de les gérer au quotidien, de leur ego? Parce que bon, j'imagine que ça ne doit pas être simple.
Ils ont de la personnalité, bien évidemment. Et s'ils sont champions, il n'y a pas de champion sans personnalité. Déjà, ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble. Quand on voit les stats, le nombre de buts marqués, ils sont impliqués sur 70 ou 80% des buts que nous avons marqués. Oui. Ils jouent ensemble. Ils ont une vraie relation permanente tous les jours à l'entraînement. Ils ont une relation technique. Les déplacements sont très coordonnés. Les uns et les autres se cherchent. Ça, c'est une vraie...
Ça, c'est la réalité. Ouais.
Ça, c'est une réalité, mais c'est une réalité du quotidien. Tous les jours.
Ouais, donc il n'y a pas de guéguerre d'ego, en fait.
Non. Quand vous commencez un entraînement par des exercices techniques, paf, association, ils sont là, ensemble. Quand vous faites un taureau, ils sont dans le même taureau. Ils ont vraiment envie d'avoir cette relation technique sur le terrain et de jouer les uns pour les autres. Et je crois que ces trois grands joueurs, avec des personnalités différentes, des trajectoires différentes, des âges différents, savent très bien que en jouant ensemble les uns pour les autres, ils vont réussir la saison.
Mais est-ce qu'ils acceptent de sortir? Est-ce que c'est difficile?
Okay.
Parce que aucun n'accepte de sortir, mais de toute façon, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être un grand joueur, de toute façon, Christophe.
Je vais vous dire la vérité. Je suis là pour vous dire la vérité.
Ah oui, ça tombe bien.
Oui. Au Japon, j'ai réuni des joueurs et incidemment, j'ai réuni Léo, Ney et Kylian pour aller dans un ordre d'âge. Voilà. Et évidemment, j'ai abordé ce sujet-là avec un calendrier très particulier, une saison singulière, avec l'accumulation des matchs. J'ai abordé ce sujet-là. Et eux m'ont appris une chose. Ils m'ont dit, mais au moment où vous voulez nous sortir, c'est le moment où l'adversaire est en train de lâcher et c'est là où ça devient le plus facile pour nous.
Oui.
Et c'est là où on va prendre un énorme plaisir à en rajouter un, à marquer un deuxième, un troisième, un quatrième. oui. J'ai dit, mais à un certain moment, il va y avoir une gestion. Vraiment, on dit.
Ouais, mais des fois, l'adversaire n'est pas toujours fatigué, Christophe.
Exactement. Et ça a été autant en début de saison, à un match par semaine, on avait fait des écarts, mais il restait sur le terrain. Autant quand on a commencé à enchaîner les matchs, il y a des matchs où on n'a pas fait de différence.
Et que tu as senti que physiquement, le PSG et certains joueurs étaient plus en dedans que l'adversaire.
Tout à fait. Mais c'est aussi une de mes raisons pour lesquelles j'ai rajouté dans mon organisation un milieu de terrain supplémentaire. D'accord. Pour les libérer à un certain moment d'une certaine tâche.
Mais alors, cas concret, parce que Jérôme, tu as fait ce reproche-là sur le match avec Benfica, de ne pas sortir Messi plus rapidement en deuxième période, alors qu'il était en train de fatiguer.
On était à deux, oui.
Est-ce que contre le Bayern, par exemple, si Messi commence à fatiguer après l'heure de jeu, vous pouvez le remplacer?
C'est difficile, hein?
Tout dépend le contexte du match. À un certain moment, si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas sortir ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé.
Non, mais un des trois.
Oui, un seul.
Mais même, Christophe, pour aller plus loin, même dans ta construction d'équipe. Tu vois, Jean-Louis parlait du Bayern. Oui, bien sûr, comme toujours au mois de février. Mais
dans 3 mois.
Dans 3 mois. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Mais moi, ma critique est tout le temps, et je l'assume devant toi, je pense, moi, alors je ne suis pas entraîneur comme toi, je ne les ai pas au quotidien, bien sûr que c'est 3 grandes stars. Mais je me dis que pour le collectif, quand tu joues des équipes qui collectivement sont bien plus fortes que le PSG aujourd'hui, collectivement, même dans les efforts, dans l'intensité, je me dis qu'il y en a un de trop. Est-ce que toi, tu te...
Non. Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions avec ces 3-là devant? Non, là, tu as des doutes là-dessus, Jérôme.
Moi, j'ai des doutes là-dessus. Voilà. Dans les efforts, ensemble.
Il y a... Les efforts, après, il faut... Les efforts, il faut jouer sur les points forts. Quand vous avez ces 3 joueurs-là, ces 3 joueurs qui ont été incroyables, vous devez jouer avec leur qualité. Ne pas... C'est autour d'eux qu'il faut construire les
D'accord.
choses. Mmh. Autour d'eux. Et ma réflexion sur ce système, en rajoutant un milieu, en sortant un défenseur central, elle vient aussi de là. Et je pense qu'il y a d'autres systèmes, d'autres animations qui peuvent arriver.
Il est 18h14, vous êtes sur RMC, c'est Rotten sans flamme. La personne que vous entendez, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, qui est notre invité exceptionnel. Jean-Michel, tu as une question pour Christophe.
Oui, Christophe, je ne doute pas une seule seconde qu'avec ton staff, vous réfléchissiez beaucoup à tout cela, mais est-ce que vous ne vous heurtez pas parfois au principe de réalité? J'entends par là que quand tu fais ça dans le championnat de France, Christophe, T'as souvent raison parce que ou t'en mets 5, ou t'en mets 6, ou t'en mets 7. Ça a été le cas au cours de ces 15 premières journées. Ça s'est passé. Et c'est peut-être pas tout à fait ce qui va se passer dans la Ligue des Champions, dans des matchs à intensité. Est-ce que parfois vous n'êtes pas un petit peu trompé par la qualité de l'adversaire? On respecte toutes les équipes, Christophe.
Oui.
Mais... On est bien conscient quand même que notre championnat de France, les équipes que tu rencontres, ce n'est pas du niveau de celles que tu es amené à rencontrer en Ligue des Champions. Donc, est-ce que là-dedans, il n'y a pas aussi parfois une petite tromperie, un petit leurre par rapport à ce que vous retenez de la leçon, par exemple?
Non, il n'y a pas de leurre, il n'y a pas de tromperie, Jean-Michel, crois-moi. Je suis très lucide, toujours attentif et exigeant sur ce que je veux voir de mon équipe. Et évidemment qu'il y a les matchs de Champions League ne ressemblent en rien à nos matchs de championnat. C'est comme ça, et c'est comme ça aussi dans beaucoup d'autres pays. Mais bien évidemment qu'il y a une réflexion par rapport à cela. Mais je le répète encore une fois, quand vous êtes entraîneur et que vous avez la chance d'avoir ces 3 joueurs-là, Léo, Neymar et Kylian, vous devez faire en sorte de monter autour de ces 3 joueurs une équipe qui va compenser notre déséquilibre, qui va faire respecter notre équilibre. Mais à tout moment, et même dans notre système, on a été malmené à Haïfa pendant 20-25 minutes, mais dans ce système-là, on est arrivé à marquer 3 buts. Contre la Juventus, regardez l'entame de match contre la Juventus avec la pression de Léo, la pression de Kylian et de Ney sur la sentinelle qui était... Leandro de Paredes, on a fait un super début de match, on a une balle de 3-0 et derrière, pof, on prend un but sur un coup de pied arrêté. Et évidemment que là, ça devient compliqué. Mais quand on les a, ces 3, quand on a le bonheur d'avoir 3 joueurs comme ça, je dois faire en sorte, et ça c'est de ma responsabilité, d'organiser l'équipe autour de ces 3-là. Après, il y a l'histoire du match, il y a l'état de forme, il y a la fatigue, il y a le scénario, l'histoire du match, le scénario qui va moi m'imposer à prendre des décisions si je dois prendre la décision de sortir un des trois, bien évidemment.
Tu t'interdis pas de le faire, c'est ça qui est
important. Non, je me l'interdis pas. J'ai senti à un certain moment contre la Juventus, alors que je pensais qu'on allait rajouter un troisième but, ça n'a pas été le cas. Et bien à 10 minutes de la fin, c'est Léo qui est sorti. J'ai renforcé le milieu de terrain, j'ai injecté de la fraîcheur. Mais bien évidemment que je m'interdis pas de sortir un des trois. Je pense qu'il sera toujours important d'en avoir toujours. Au moins toujours 2 sur 3 sur le terrain, parce que, croyez-moi, pour l'adversaire, c'est un gros problème.
Alors Christophe, on va parler de vous. Comment vous avez appréhendé ces premiers mois au PSG, ce changement de statut pour vous, et pour faire ça, j'aimerais bien que Mathieu...
Ce changement d'accent aussi, c'est impressionnant. En très peu de temps, d'avoir abandonné.
Il parle pointu.
Non mais Mathieu, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu vois l'évolution de Christophe, que tu as connu donc. Christophe était l'adjoint d'Alain Perrin à Lyon, oui. Tu l'as ensuite connu comme entraîneur principal à Saint-Etienne, et aujourd'hui au PSG. Quelle différence tu notes?
Franchement, pas énormément. Je vous l'avais dit il y a quelques mois, Christophe, son point fort, c'est la gestion d'un effectif, c'est la gestion des égos et comment tirer le meilleur de tout le monde. Moi, la seule question que j'ai pour Christophe aujourd'hui, par exemple, c'est comment il a fait pour remettre Neymar et Messi dans le droit chemin et à un tel niveau aujourd'hui. Quel discours tu as pu avoir avec des joueurs comme ça pour les, je ne vais pas dire remotiver, parce que je pense qu'ils n'avaient pas perdu la motivation à 100%, mais le remettre dans le projet collectif du PSG.
Mathieu, soit avant tout les joueurs qui font l'effort, qui font le travail. Je pense que pour Léo Messi, on doit tous avoir un très 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 grand respect. C'est un joueur, quand il a quitté Barcelone, il a quitté sa vie, sa ville, sa famille, son environnement. Il est arrivé à Paris, il a fallu s'adapter à beaucoup de choses, il a été blessé, il a eu un long Covid, il a eu une saison difficile. Mais Léo, dès les premières séances d'entraînement, ça a été quelqu'un qui s'est toujours investi, qui prend énormément de plaisir, qui a toujours le sourire. Léo est évidemment un très grand footballeur, un très grand compétiteur, mais c'est aussi un joueur. Il aime jouer, il aime le jeu.
C'est important ce que tu dis sur son sourire, parce que c'est vrai qu'il est un peu... Il le cache, il est un peu fermé comme ça au premier abord. Mais quand tu
non, pas dis, au quotidien.
Tu... Non, mais c'est ça, c'est important de le dire.
Et pas au quotidien, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui analyse, évidemment, qui est très intelligent, mais qui sourit énormément, qui rigole énormément. Et il n'y a rien de particulier, si ce n'est que c'est un joueur hors norme.
Et Neymar ?
Neymar est arrivé le 4 juillet, fit, prêt.
Tu lui as parlé tout de suite ?
Non, je n'ai pas parlé tout de suite. Pendant mes dix premiers jours, j'ai été très observateur.
Ah, tu lui as même pas parlé les 10 premiers jours.
Ah, c'est bonjour. Oui. Bonjour, mais non,
mais quand même.
Non.
Oui,
pas rapidement, non, les entretiens individuels ou par petits secteurs, par petits groupes, se sont faits énormément au Japon, mais j'ai été très observateur. Mon staff a été vraiment mis en avant avec du travail au quotidien. Et moi, j'ai essayé de prendre la mesure des uns et des autres, de voir où étaient les relais, comment on allait échanger avec un tel.
Tu l'as vu, tu lui as dit quoi au bout de 10 jours, une fois que tu as analysé tout ça à Neymar, pour le remotiver ou pour qu'il soit dans le collectif, qu'il comprenne aussi que...
Déjà, que j'étais très heureux d'être son entraîneur. La première des choses. Très heureux d'être son entraîneur.
Ça flatte son ego, donc forcément, ça a dû lui faire plaisir.
Ensuite, je lui ai dit, évidemment que j'entends beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses, mais je suis ici sans aucun a priori. Je vais juger sur place, parce que, et heureusement, parce que si j'avais dû adapter ma position, mon discours par rapport à tout ce que j'avais pu lire ou entendu auparavant, avec tout ce que je lis depuis que je suis entraîneur.
Ou Christophe, moi je vais plus loin parce que forcément tu étais entraîneur de Nice, donc tu n'étais pas au quotidien pour voir ce qui se passait au Paris Saint-Germain. Moi je suis attaché à ce club et tu le sais, et j'ai vu tous les matchs. Et j'ai vu en effet que lui, son comportement, l'image, ça c'est pas juste des journalistes qui racontent ça, c'est ce qu'on a constaté. Comment il se comportait par rapport aux supporters du Paris Saint-Germain qui lui ont quand même rendu beaucoup de choses négatives sur la fin de saison dernière, ça c'est la réalité. Tout ça a évolué quand même, c'est pas du tout le même Neymar qu'on voit depuis la reprise.
Le Neymar que j'ai rencontré est un joueur, en dehors de ses qualités, qui est un joueur exceptionnel, est un grand, très grand professionnel qui arrive très tôt à l'entraînement, qui se prépare pour les séances d'entraînement, qui fait ses séances d'entraînement, qui ne manque aucune séance d'entraînement.
Mais alors tout ça, est-ce que c'est grâce à vous ou grâce à la Coupe du Monde ?
C'est un ensemble de choses.
Je pense que c'est un ensemble de choses. Je pense que tout d'abord, il y a une prise de conscience du joueur. Il y a une prise de conscience de sa part. Et de son organisation qu'il a aussi autour de lui. Évidemment qu'il y a aussi cet objectif Coupe du Monde, la Coupe du Monde en milieu de saison ou un tiers de saison qui est là, évidemment. Et puis après, je pense que nous avons été très clairs avec tout le monde, parce que là vous parlez de Denis, mais nous avons été très clairs avec tout le monde, avec Louis quand nous avons pris
L'équipe
et notre position au camp des loges, à Orédou, ça a été très clair. Personne au-dessus de l'équipe. Personne au-dessus de l'équipe. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu...
Un dérapage.
Okay. Pas eu un dérapage de la part de personne.
Christophe, qu'est-ce qui change le plus quand on passe d'un club de Ligue 1 qui joue le haut de tableau, comme vous avez connu avant, au PSG ? C'est le contexte, c'est les polémiques qu'il y a autour du club.
Quand on passe de Fabien Lemoine à Neymar, ça doit faire bizarre.
C'est le niveau des joueurs, des entraînements. Qu'est-ce qui change le plus ? On embrasse Fabien Lemoine, non ?
Mais oui. Mais
j'embrasse Fabien Lemoine.
Bien sûr.
Qui a joué son 500e match professionnel.
Magnifique carrière. Non, mais c'est vrai. Carrière. Quel technicien.
Contre Saint-Brieuc.
Donc,
qu'est-ce qui change le plus ?
J'étais.
Qu'est-ce qui change le plus ? Évidemment que vous êtes jugé tout d'abord sur vos compétences. Et en 8 jours, les joueurs sont capables d'évaluer ce que vous êtes capable d'apporter à l'équipe. Il y a très rapidement aussi une prise de contact avec le groupe, mais aussi de manière individuelle avec les joueurs qui composent. Ce sont tous des internationaux. Et il y en a 4 qui sont 4, 5, 6 de manière différente.
7, 8.
Non, mais quand on prend Sergio Ramos, qui a un palmarès incroyable, on peut prendre Marco Verratti, ce qu'il fait chez nous, Marquinhos, plus après les trois de devant, évidemment, Neymar, Léo et Kylian, évidemment, c'est des joueurs avec qui vous avez des échanges. En permanence, mais de manière informelle, de savoir comment ils sentent les choses, de chercher à les questionner sur ce qu'ils peuvent attendre de plus dans la séance d'entraînement, de plus sur des consignes, de différents sur des schémas. Et évidemment,
parfois, Christophe, dans des exercices où tu sens que ça s'endort un petit peu, est-ce que ce sont eux qui rectifient un exercice ou qui disent, par exemple, qui apportent des petites modifs pour réanimer un petit peu la séance ou,
Non, il faut aller chercher.
Où ils se plient toujours à ce qui a été décidé par ton staff.
Ils se plient tout le temps à ce qui a été décidé, mais il y a quelquefois des séances où on pense qu'on va atteindre un objectif, finalement, on voit qu'on ne l'a pas atteint. Après, l'analyse, c'est de dire, tiens, si ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Ils n'avaient pas envie. Moi, le pas envie, j'y crois pas. Ils ont adhéré ou pas adhéré ? Ah, ils n'ont pas adhéré. S'ils n'ont pas adhéré, on doit nous se remettre en question. Et là, tout le monde se remet en question. Mon staff et moi, je demande à mon staff et à moi-même, nous, on se remet en question. Parce qu'on doit toujours leur proposer, évidemment, dans l'aspect technico-tactique, des choses auxquelles ils adhèrent. Quand il a fallu changer d'organisation, que j'ai souhaité changer d'organisation, bien évidemment, Jean-Michel et Mathieu, et tout le monde pouvait imaginer que si j'avais senti que ça n'allait pas convenir, on ne peut pas y aller. Ça n'existe pas. On ne peut pas y aller. Pas avec ces joueurs-là. Évidemment, j'ai senti rapidement, avec les informations que j'avais pu divulguer aux uns et aux autres sur cette envie et donner les raisons. Est-ce que ça allait nous apporter ? Évidemment, quand j'ai senti qu'il y avait l'adhésion, c'est beaucoup plus facile. Et là, ces séances-là sont évidemment bien faites et bien accomplies de la part des joueurs. Mais quelquefois, il faut aller les chercher, comme dans tous les effectifs, comme dans tous les vestiaires. Quelquefois, il faut aller les chercher. Et quand il faut aller les chercher, comment dirais-je, ils répondent assez rapidement.
Christophe Galtier, invité exceptionnel de Rotten sans flamme sur RMC ce soir.
On continue.
Et d'autant que Jérôme, c'est quoi la promesse sur RMC ?
C'est que les auditeurs participent à l'émission.
Exactement. Voilà. Vous êtes supporter de club, on vous offre vos entraîneurs. Thomas, t'es supporter du PSG.
Salut Thomas.
Salut Jérôme, ouais, exactement.
Bienvenue. Salut Thomas, tu es supporter du Paris Saint-Germain. Et ben, je te laisse avec Christophe à lui poser la question que tu veux, ton entraîneur.
Alors, bonsoir coach d'abord.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir. Je voulais savoir si on se posait déjà beaucoup de questions en fait, avant d'accepter un projet tel que le PSG et de diriger un vestiaire, on va dire, rempli de stars et d'internationaux. Ça, c'est ma première question. Et une deuxième petite question qui suit, c'est est-ce que vous attendiez à être autant sous le feu des projecteurs et notamment sur le sujet hors foot? Parce que je sais que vous avez un peu râlé la dernière fois sur le fait de passer par les foot. Est-ce que ça vous embête vraiment? Parce que ça reste quand même le cœur du sujet quoi, aujourd'hui et de votre venue à Paris. Quoi.
Sur la première question, Thomas, quand Luis Campos m'a parlé de ce projet-là, la première personne concernée a été mon épouse. Mmh. Mon épouse m'a dit, te sens-tu capable de diriger cette équipe-là et d'aller dans ce club avec tout ce que cela comporte? Et je lui ai répondu simplement, si je refuse d'entraîner le Paris Saint-Germain, il faut que j'arrête mon métier. Quand vous avez l'opportunité de venir entraîner un club comme le Paris Saint-Germain, avec tout ce que cela comprend, un effectif incroyable, un club qui peut vous amener les plus beaux trophées, il faut y aller. Alors une fois que vous avez dit il faut y aller...
Et puis il faut y aller.
Et ben faut y aller.
Une fois que vous avez dit.
C'est aussi un club qui broie entre guillemets les entraîneurs.
Ouais, Christophe, t'as senti que c'était la chance de ta vie en fait.
C'est une opportunité incroyable. Évidemment que je remercie mon président Nasser, Ravi, mon président qui a été très clair dès le début sur son choix. Il m'a on en a parlé beaucoup et puis quand il a décidé de me choisir, évidemment que j'étais très heureux et je lui ai dit, et dans ma tête je me suis dit c'est une opportunité incroyable pour moi et pour n'importe quel entraîneur, encore plus un entraîneur français, c'est une opportunité incroyable et j'y suis allé sans aucune retenue.
Et le hors football, c'était l'autre question de Thomas.
Le hors football, alors évidemment je savais qu'elle allait avoir une grande exposition, je pense être très honnête et très entier, donc j'apprenais pas la relation avec les médias, les différents médias. Évidemment que tout est multiplié en termes de personnes qui suivent l'équipe du Paris Saint-Germain, tout est multiplié et tout est peut-être exagéré. Il faut écrire, il faut faire des lignes, il faut faire des pages, il faut faire des unes, il faut faire des émissions.
Tout
est polémique. Mais en aucun cas, je pensais que quand même, on allait aller aussi loin. En aucun cas.
Sur quoi, en fait?
Alors, évidemment, qu'il y a ma sortie conférence de presse, mais je ne m'attendais jamais.
Le char à voile?
Oui, jamais à une telle question. C'était. Il faut tout repositionner dans son contexte.
Oui, c'était veille d'un match, en plus.
C'est veille de ma Champions League. Mon premier match de Champions League au Parc. Jamais de la vie, j'aurais imaginé qu'il y a eu la sortie qu'il y a eu. Point à la ligne.
Vous la regrettez?
Je la regrette. Je regrette d'avoir fait de l'humour à ce moment-là.
Ou sur ce sujet?
Non, à ce moment-là. D'accord. J'aurais pu faire de l'humour à un autre moment, mais ou sur ce sujet-là. Mais c'était de l'humour. Ça n'a pas été perçu comme de l'humour. C'est comme ça.
Mais comme quoi, on ne peut plus faire d'humour, Christophe?
Non, comme quoi, on peut faire d'humour. Mais...
Sauf les humoristes.
Mais attendez, Jean-Michel, Mathieu, il y en a une. Elle a fait de l'humour à l'Assemblée nationale il y a 15 jours. Elle a imaginé que moi, j'avais une Lamborghini. Oui. Vous vous rendez compte où on en est, quoi, je veux dire...
Et c'est vrai.
Non, c'est pas vrai.
Il a caché.
Non, mais voilà. Évidemment que sur le hors-football et toutes les polémiques, évidemment, je pensais pas qu'on en est là. Alors, évidemment qu'il y a... Ça fait trois fois que je dis évidemment. Il y a cette Coupe du Monde qui arrive, évidemment, en cours de saison, et ça crée évidemment beaucoup de polémiques, mais je pensais jamais qu'il y allait avoir autant de sujets comme ça.
D'accord. Et est-ce que ça t'a blessé certaines paroles sur toi, toutes les polémiques que
bien sûr. Bien sûr qu'il y a des paroles qui blessent. C'est quand vous recevez l'ancien directeur de l'OGC Nice et qui envoie un truc incroyable ici, évidemment que ça vous blesse. Vous
dites, c'était Julien Fournier dans l'after, voilà, oui, qui a fait un sous-entendu.
Avant le match PSG-Nice.
Oui, c'est ça.
Quand vous êtes entraîneur et que vous avez travaillé comme vous avez travaillé, de partout où vous avez travaillé, de la même manière, d'avoir la même approche et d'avoir la même exigence sur la performance, sur la récupération et sur le fait de prendre soin de la santé des joueurs, d'avoir cette sortie-là, vous dites, elle est là, si je n'étais pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain, n'aurait jamais eu cette sortie.
Alors, puisque vous y faites référence, je la précise quand même pour les gens qui nous écoutent. Julien Fournier, donc l'ancien directeur sportif de Nice, où vous travaillez ensemble la saison dernière, a dit dans l'after, si j'explique les vraies raisons, il n'entre plus dans un vestiaire en France et en Europe. Si j'explique les vraies raisons de notre dispute.
Ouais, voilà. Bon, on va pas rebondir là-dessus parce qu'on en a déjà assez parlé. Thomas, ça t'allait les réponses du coach ?
Oui, oui, très bien. Voilà. Notamment sur le hors-foot. Et Christophe a répondu à ce que je pensais au début. C'est-à-dire, je pense qu'il ne s'attendait pas à autant de traitements médiatiques et sur des faits, des fois, qui sont ahurissants.
Mais, très bien, Thomas. Mais
à voilà, bientôt, Thomas. Tu reviens quand tu veux.
À bientôt, Thomas. Ouais, Thomas. Moi, Christophe, j'ai une autre question parce que tu parlais de ce que tu as mis en place quand tu es devenu entraîneur. Tu en as parlé avec ton épouse, bien sûr, et que sans aucun doute, tu y es allé parce que c'est une grosse opportunité d'entraîner le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est dur quand tu es dans un vestiaire, quand tu mets des choses en place, et tu nous as expliqué tes séances, comment les joueurs s'apprivoisent les séances, comment ils rendent un entraîneur beau, parce que les joueurs rendent un entraîneur forcément beau au bout d'un moment, s'ils adhèrent à tout. Est-ce que c'est dur d'avoir une autorité sur des mégastars ? Tu vois, quand...
Jérôme, tu ne cherches pas l'autorité, tu as été dans ces vestiaires-là, et tu as été un joueur de très haut niveau. Je ne suis pas un entraîneur qui cherche l'autorité. Je suis très naturel, j'ai besoin de relations humaines fortes avec mes joueurs. Mais chacun doit rester dans sa position.
Mais c'est une forme d'autorité et de respect, que je veux dire. Parce que j'ai connu ça avec...
entre respect et autorité.
Oui, après, peut-être que je me suis mal exprimé. Ouais.
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire...
C'est autorité naturelle. Voilà.
J'ai une autorité naturelle, c'est à un certain moment, je veux aller là, je pense que c'est le bon chemin. Non, pas je pense. Je suis convaincu que c'est le bon chemin parce que on a beaucoup travaillé en amont avec mes équipes médicales, performance, technique et tactique. J'ai beaucoup travaillé avec ces équipes-là et je dis, il faut prendre ce chemin-là. Après, c'est amener les joueurs à adhérer à cela. Et ça ne passe que par le dialogue. Je n'ai jamais été un entraîneur qui est passé en force dans un vestiaire.
Est-ce que ça, c'est pas au Paris Saint-Germain, je te parle. Est-ce que ça, c'est pas ça t'a forcément réconforté d'être sur la même longueur d'onde que Luis Campos?
Tout à fait.
Parce qu'il y a ça aussi, ce paramètre-là, que certains d'autres entraîneurs qui avaient peut-être un CV supérieur au tien quand ils sont arrivés, d'anciens grands joueurs, d'anciens joueurs du Paris Saint-Germain, Pochettino était comme ça, Tourelle. Est-ce que au bout d'un moment, tu as eu ce syndrome un petit peu d'infériorité où ils se sont dit, tiens, eux, ils avaient une autorité naturelle dans le sens où, avec ce qu'ils ont fait, ils ont entraîné des grands clubs à l'étranger.
Ah ben, c'est sûr qu'avec le costard que l'on m'a taillé avant que je sois nommé, avant mon âge.
Non, mais c'est pour ça. Voilà.
Évidemment que j'ai entendu quelqu'un dire, on attendait Georges Clounet et il va arriver Danny Boone.
Oui. Ah bon ?
Ah oui. Oui, bien sûr, vous l'avez entendu.
Je suis deux confrères à la télé.
Je vous souhaite à beaucoup de personnes d'être Danny Boone quand même.
Oui, monsieur.
Voilà.
Il fait des entrées, oui.
Oui. Donc, oui, mais c'est la vérité, Jean-Michel. C'est la vérité, évidemment. J'ai entendu ces remarques-là.
Non, mais
est-ce que Christophe Galtier va avoir la légitimité de rentrer dans ce vestiaire-là ? Premièrement, j'ai été choisi par le président. Et merci, monsieur le président. Deux, Louis voulait que je vienne évidemment travailler et qu'on reforme un duo qui a bien fonctionné à Lille. Et évidemment que la présence au quotidien de Lille, de Louis à Orédou, les échanges permanents aussi avec le président, fait en sorte que vous vous sentez légitime et que vous...
Mais tu le sens fort.
Non, pas fort. Légitime. Il n'y a pas fort. Légitime. Quand je prends une décision, croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens autour de la table que j'interroge, savoir si je suis dans le vrai ou pas.